Bonjour, ce sont les parents d'élèves de Saint-Ouen dans le 93. Alors, on a entendu que la rentrée se passait bien, mais alors on ne doit vraiment pas avoir de chance, parce que ici, eh bien, c'est des sur-effectifs dans toutes les classes. Dans les classes qui sont classées, dans les écoles qui sont classées ZEP, on arrive à 25, 26, 27 élèves par classe. Sans compter qu'il y a des dizaines d'élèves qui ne peuvent même pas être acceptés. Alors, alors on va se mobiliser, puis on va les obtenir, ces classes. Et on suppose que c'est partout pareil dans le 93, et puis bien partout pareil dans toute la France. Donc j'espère qu'on sera très nombreux à se mobiliser, et que nos enfants pourront enfin avoir des conditions d'études correctes. À bientôt, on vous tiendra au courant.
Daniel, bonjour. Olivier de Lambesque, en Provence. Je te passe un petit coup de fil pour te féliciter sur ta rubrique concernant le départ de Jean-Marc Sylvestre. Vraiment, c'est malheureux. Et comme tu l'as dit, on est tous très déçus de ne plus avoir ce tel verbiage le matin. Mais enfin, en plus, toi, tu dois être doublement triste parce que, d'une part, donc, à la télévision, Jean-Marc Sylvestre a disparu, à la radio plutôt, à France Inter, il va sur la télévision. Bon, ben, je sais que tu fréquentes pas trop ce truc, tu as pas le temps de regarder ces trucs-là. Mais en plus, la presse écrite, tu as vu que tu as un de tes amis, un de nos amis qui a disparu, Claude Askolovitch. Ah là là, il paraît que la nouvelle soupe, le nouveau rata, il est très très bon avec Lagardère. Allez, continue Daniel, tu nous intéresses beaucoup et au moins il y a encore ta voix. Merci.
Bonjour, c'est Henri dans le Gard. C'est simplement pour savoir si le répondeur est toujours en service, parce que comme il n'y a aucune pub pour votre émission dans la grille, nulle part, jamais, et je me faisais du souci, voilà. Donc aujourd'hui lundi, je suis à l'écoute, et pour m'assurer que là-bas, j'y suis, existe toujours, je me suis assuré que le répondeur était en fonction. Merci, et je vous souhaite une bonne année, donc apparemment ça va redémarrer, à tout à l'heure, à 3h. Merci, au revoir.
Oui, bonjour à toute l'équipe, Jean-Pierre Labins à la Porcherie. Mon beau-fils m'a fait un cadeau intitulé Chomsky et compagnie, voilà. Eh bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et puis que vous avez plein de bonnes idées et de bons sujets à exploiter. On attend votre retour avec impatience et on vous souhaite une excellente rentrée. Allez, salut à tous.
Oui, bonjour. Je voulais laisser un message à la première personne qui a laissé un message aujourd'hui, lundi 1er septembre. En fait, c'est une dame. Voilà, alors ce message est pour elle. Sachez, madame, que votre ignorance me sidère. Voilà, donc là, en fait, la nationalité n'a rien à voir avec la religion. Moi-même, je suis française d'obédience juive. J'ai des amis français d'obédience musulmane. Je connais même des gens, alors là, vous allez être sidérés, des arabes israéliens athées. Alors, chère madame, vous avez du boulot. Et je ne vous salue pas.
Oui, bonjour. Ici, c'est le Café Gervaise à Genève. C'est pour vous annoncer la reprise des cafés repères des AMG après une pause estivale. Donc, on reprend aujourd'hui, mardi 2 septembre. Donc, tous les premiers mardis du mois, à partir de 18h30. Au Café Gervaise, 4 bis boulevard James Fazi à Genève. Ben voilà, on vous attend. À plus.
Et voilà, les cafés repères reprennent un peu partout. Je vous rappelle le principe des cafés repères. Les repères de la base, j'y suis. Il y en a une centaine à travers le pays. Et vous voyez, pas seulement en France, puisque celui-là est à Genève, le Café Gervaise. Ben, pour tout savoir sur ces cafés, sur ces repères, vous allez sur labas.org, la-bas.org, c'est très simple. Vous avez envie de retrouver des auditeurs qui peut-être écoutent France Inter ou là-bas, si j'y suis, dans votre coin, dans votre village, dans votre quartier. Vous trouvez un bistrot sympa, ouvert, et puis ben, vous y allez, vous vous retrouvez chaque mois, chaque semaine, tous les 15 jours, comme vous voulez. Et puis voilà, vous nous racontez un peu ce qui s'y passe, et puis vous nous communiquez tout ça, vous nous prévenez, et voilà, ça roule. Et on est content aujourd'hui. Ah oui, allusion de cet auditeur au papier de Daniel Schneiderman, sujet de Claude Askolovitch dans Libé, un papier tout à fait gratiné et intéressant, passionnant même. Aujourd'hui, on va rester un petit peu dans la dans ces couleurs-là, dans la couleur un peu de l'émission d'hier, ou du moins le début, avec Noël Godin. Vous voyez qui c'est, Noël Godin? Si, mais si, l'entarteur. Eh bien, il ne fait pas qu'entarter ce Belge de Noël Godin, il est aussi l'auteur d'un bouquin qui s'intitule « Anthologie de la subversion carabinée ». Un livre qu'il a mis une bonne trentaine d'années à écrire, ce Lambin, mais qui qui vaut le coup. Et on va passer cette heure donc autour de ce bouquin avec le camarade Noël Godin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, salut, c'est Antoine de Grenoble. Une petite annonce pour annoncer justement la rentrée des apéros revues de la presse alternative et indépendante sur Grenoble, au bas-côté, 59 rue Nicolas Chaurier. Comme depuis deux ans déjà, ça reprend là, c'est la première du mois de septembre. Ça a lieu tous les 15 jours, un mardi sur deux à 19h. C'est servi frais avec les commentaires de l'auditoire et donc des articles ou des extraits d'articles de la presse alternative et indépendante française. Donc Le Plan B, Le Canard Enchaîné, Silence, Nos Passarans, CQFD, La Décroissance, j'en passe, et des meilleurs. Voilà, donc rendez-vous pour celles et ceux que ça tente ce soir au bas-côté 59 rue Nicolas Chaurier. Voilà, ciao.
Bon, alors ça y est, c'est rebranché le répondeur. J'aurais pu vérifier déjà il y a quelques jours, mais bon. Bande de fumites. Alors, et là je vous appelle parce que je me suis attardé un peu en ville, dans le quartier des Chartrons, attiré par le ciel gris qui promettait. Et je viens de me prendre un bel orage sur la gueule, et c'est pas désagréable d'ailleurs. J'en ai profité pour faire des photos de la pierre, parce que la pierre ça ressort mieux quand le ciel est gris. Des maisons comme ça, des maisons, des choses qui vont disparaître. Alors je me suis dit, tiens, je vais les photographier. Puis j'ai aussi photographié une femme qui portait des fleurs, qui sortait d'un magasin, de chez un fleuriste, quoi. Et puis, en portant son bouquet, qu'elle allait offrir, visiblement, ça faisait tomber l'épaulette de la bretelle de son corsage. Je trouvais ça très joli, je lui ai demandé, vous permettez que je vous photographie? Elle m'a dit, oh bien sûr, ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments. Vous voyez, il y a des gens qui réagissent très bien dans la vie. Voilà. Femme très charmante. Bon, ça se tasse un peu. Je vais boire une bière au Cambridge, je la tiens. Mais j'aime bien cet homme. Allez, à plus.
Une simple goutte de ce liquide
c'est là-bas si j'y suis avec Noël Godin, anthologie de la subversion carabinée.
Flight number 2, arriving from New York.
Dis donc alors, ça fait depuis 1988, quand ton bouquin est sorti, ça fait 20 ans que je rêve de faire un entretien avec toi sur ce
bouquin. Oulala, oulala.
Mais c'est vrai, ça c'est la vérité, ce sans aucune flagornerie, anthologie de la subversion carabinée. Et voilà que le livre ressort, 20 ans plus tard, dans une version un petit peu que tu as retouchée un peu.
Non, simplement développé. Le texte, c'est la même chose, mais la bibliographie est autrement dodue, il y a 200 pages en plus, pour les chercheurs en subversion corsée. J'ai réimaginé toute la biblio pour qu'il y ait un maximum de titres concernant toutes les formes de subversion dans 140 sections, avec une petite coquetterie que les bibliographes n'ont pas souvent, une cotation que j'ai accordée très subjectivement aux dizaines de milliers de livres qui se trouvent là, en fonction du degré de toxicité ravasolesque positive que je leur prêtais. ce n'est pas une anthologie en fait du texte subversif, mais surtout une anthologie de l'appel à la riposte à toutes les époques et à travers tous les continents. Il s'agit ici de rassembler des appels à la castagne, imaginatifs, ludiques et parfois très méchants, très radicaux, contre les saloperies trônantes.
Appel au meurtre, grève orgiaque, tour pendable, pétrolage gloupitant, picassiettisme sauvage, détournement pernicieux, cannibalisme justicier, sabotage policier, attentat pâtissier, etc. À travers aussi tous les genres littéraires, libelles, reportages, poèmes satiriques, dessins plans pamphlétaires, lettres d'insultes, etc., etc. À travers toutes les écoles du crime donquichotesque, des émeutiers galopent les cotillons de l'Antiquité au chaos pontexte de 68 et d'après, en passant par les iconoclastes du Moyen-Âge, les emporte-pièces de 1789, les Amazones crapules de la Commune, les chevaliers de la dynamite de la Belle Époque, les magiciens lucifériens anarchisants, les pirates utopistes, les fuck rebelles hippies et le grain fin des boutefeux de sédition slave, chinois, égyptien, latino-américain ou belge. Voilà quelques éléments, quelque chose, quelques ingrédients qu'on peut trouver dans cette anthologie de la subversion carabinée aux éditions L'Âge d'Homme, signée Noël Godin. Alors on n'est pas obligé de suivre tout cela à la lettre. On peut prendre un peu de distance parfois, mais on peut aussi s'enchanter, s'amuser, frémir et jusqu'à 16h sur France Inter, regarder la réalité en farce.
Qui c'est qui se lève tôt le matin et qui empêche les autres de dormir?
Les gens qui bossent.
Mais qui c'est qui se gêne pas pour gueuler quand je fais des booms?
Les gens qui bossent.
Ils s'occuperaient de leurs enfants, il y aurait jamais de délinquants.
Les gens qui bossent.
Ils exploitent la planète et puis tant pis si ça pète.
Les gens qui bossent. Oh, ah bah les gens qui bossent.
Qu'il y a que le dimanche qu'il y a les bons trucs à la télé.
Les gens qui bossent.
Qui c'est qui se dit vivement la retraite mais qui la touchera sûrement jamais.
Les gens qui bossent.
Qui c'est qui en a marre de payer des allocs aux immigrés.
Les gens qui bossent.
Et surtout à cause de qui y a pas de boulot aujourd'hui.
Les gens qui bossent.
Ils ont plus peur de dire tout haut que les chômeurs ils sont feignants. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents de pas être à leur place. Et puis tous les matins ils prennent tous leur bagnole. Et du coup à cause d'eux y'a la guerre en Irak. Oh, à bas les gens qui bossent. Oh, ils ont vraiment rien contre foutre. Oh, à bas les gens qui bossent. Oh, franchement y'a pas quoi à ramener.
Alors, il y a des grands classiques, il y en a Boétie, il y a Swift. Hein, ça, c'est deux grands piliers.
Ben oui, Swift, avec son extraordinaire instruction au domestique, qui donne plein de petits conseils aux larbins pour saboter tout à fait leur, leur boulot inventivement, et ça va très loin, et c'est drôle comme tout, et j'espère que un tas de majordomes et de serveurs ont pris ça à la lettre.
On les proposerait à la clientèle la plus riche et distinguée du royaume, non sans prévenir les maires de leur donner le sein à satiété pendant le dernier mois, de manière à les rendre gras à souhait pour une bonne table. Si l'on reçoit, on pourra faire deux plats d'un enfant. Si l'on dîne en famille, on pourra se contenter d'un quartier avant ou arrière, lequel, légèrement salé et poivré, fournira un excellent pot-au-feu le quatrième jour, spécialement en hiver. Selon mes calculs, le poids moyen d'un nouveau-né est de 12 livres. Avec une bonne nourrice, il peut atteindre 28 livres en une année solaire. Extrait des modestes propositions concernant les enfants des classes pauvres, comment soulager leurs parents et la nation de la charge qu'ils représentent, comment les utiliser pour le bien public. Jonathan Swift.
Quel humour noir extraordinaire. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui mettait en question cet humour féroce et dans ce cas meurtrier de Swift. Par contre, il y a un des auteurs de mon anthologie qui est extrêmement mal perçu et je l'adore. C'est une des trois signature féminine de l'anthologie, car on pourrait me dire pourquoi de nana. Bien, je peux vous assurer que j'en ai lu des centaines et des centaines à peu près tout bonnement. Leur texte manquait de piquant. J'ai rien pu prendre, c'est Louis Michel et Flora Tristan. C'était pas assez transgressif, mais attention, il y a autant, heureusement, autant d'agitatrices extraordinaire féminine que masculine, mais la plupart d'entre elles, tout bonnement, n'ont pas écrit. Mmh. Alors, c'était pour en venir à Valérie Solanas, qui scandalise même les féministes de toute farine, avec son Scum Manifesto, qui pour moi est très swiftien, qui est d'une drôlerie totale, qui propose, comme vous le savez, parce que c'est passé à la mythologie, de démasculer les phalloflics. Tout à fait. Mais c'est pas à prendre vraiment à la lettre. C'est symbolique. Je ne me sens pas du tout concerné par son appel à l'usage du rasoir. Tout bonnement, elle propose d'en finir avec toute forme d'autorité, mal chauviniste ou autre, avec un aplomb extraordinaire, et ce texte est hilarant et magnifiquement bien écrit.
Alors, la Boétie?
Ah, bah, et évidemment, la base de tout, puisque la Boétie, c'est un des axes clés de l'anthologie, c'est la complicité entre les dirigeants et les dirigés qui existe plus que jamais. Et la Boétie qui dit très bien, au fond, la solution à tout, elle est très très simple, refuser de servir en quelque sorte et l'autorité s'écroulera. Et il a totalement raison, si des centaines de milliers de lustucrus totalement asservis, tout d'un coup, refusaient toute forme d'asservissement, advienne que pourra, tant pis si on ne rapporte pas le salaire à la fin du mois, refus total de l'avilissement dans le travail, ben le système s'écroulerait totalement. Il a été un des premiers à le dire. On retrouve plein de textes dans le livre qui soulignent la visqueuse complicité entre les dirigeants, les dirigés entre les maîtres et les esclaves.
Ah voilà, c'est constant à travers tout le bouquin, à travers tous ces auteurs-là, à travers les auteurs anarchistes du 19e, à travers les contestataires des années 60, les situs, des années 70, en permanence, on a cette mise en cause du dominé, du soumis dans son acceptation de sa condition, voire même de sa complaisance dans sa condition. Ça, c'est quelque chose que certains marxistes peuvent pas accepter. Enfin, il y a une lecture aujourd'hui de la société entre dominant et dominé, qui est que le dominé, c'est la victime, et la victime ne peut pas être accusée, sinon c'est pas une victime, quoi. Hein.
Oui, les analystes, les marxistes, pas des marxistes, ont une dent contre moi, c'est que j'ai toujours considéré, comme beaucoup de personnages de cette féerie subversive, que les analystes pointues des dégueulasseries ambiantes ne suffisaient pas. Et que c'est à partir du moment où, d'une façon ou d'une autre, on réagissait concrètement contre elle, que ce soit d'une façon frontale, mais aussi d'une façon totalement sournoise, vivre le sabotage pernicieux, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on se retrouve soi-même, qu'on peut continuer à s'aimer, qu'on a mis son petit grain de sable dans la machinerie opprimante, et mieux que jamais aujourd'hui, il s'avère qu'on ne peut niquer d'une certaine façon le système qu'en guerroyant contre lui d'une manière ou d'une autre, mais résolument.
Dans certains cas, il faut savoir désobéir et savoir aussi fabriquer des bombes en chambre.
Un cocktail Molotov se fabrique de la façon suivante. Tu prends une bouteille en verre que tu remplis avec un liquide inflammable. Par exemple, de l'essence volée dans un réservoir de voiture. Il est indispensable d'y rajouter un peu de savon ou de l'huile pour rendre le liquide un peu plus gras. On peut également y rajouter quelques clous, quelques graviers pour rendre l'impact plus fort.
Alors, on continue avec tout ce qu'on peut trouver dans ce bouquin. Alors les auteurs, bon, on a évoqué Stirner, évidemment Darien, indispensable Darien, l'auteur de l'épaulette.
Mon auteur de roman favori, d'une lucidité à absolument sans merci, d'une férocité inouïe, il écrit bien, 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 et les quelques personnages qu'il trouve grâce à ses yeux, ils sont magnifiques, comme le fameux Georges Randall, du voleur, son seul roman vraiment connu, qui n'est probablement que autre que lui-même, d'après quelques enquêtes qui se font. Le voleur est une des plus belles apologies du vol généreux, du vol justicier qu'on ait jamais écrite, bien sûr.
Forton, ah. c'est le dessinateur de la couverture. Hein, c'est ça, c'est bien ça.
Oui, c'est
lui. On dit les pieds nickelés, c'est une bande de pieds nickelés, ça veut dire aujourd'hui des gens qui se débrouillent mal, quoi, qui se débrouillent comme des pieds, hein, comme des pieds. Or, les pieds nickelés de l'origine, les pieds nickelés de Forton, qui était magnifiquement dessiné, c'était un très très grand dessinateur, étaient des grands subversifs.
Oui,
étaient des subversifs carabinés.
Car ce n'étaient pas des escrocs à la petite semelle, c'était de fabuleux escrocs, absolument ingénieux, qui ne se laissaient avoir par aucun subterfuge politico-social. Ils réussissaient à rester envers et contre tout totalement paresseux, totalement malpropre, totalement fripon, farceur, totalement ivrogne, et donc n'acceptait
Oui, parce que Croquignol, il a le nez rouge. Croquignol, il a le nez rouge, oui. Oui, oui.
Il a le nez très, très rouge et les pieds nickelés n'arrêtent pas de subvertir le système de toutes les manières en rigolant. Oui.
Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel la chauffée, l'arc de triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
Jacques Le Glouf. On diffuse de temps en temps dans l'émission, on a trouvé une chanson qui date de 68,
oui.
Et qui s'appelle « Il est 5 heures, Paris s'éveille ».
Ah oui.
Et on l'a diffusée, et alors on a découvert l'auteur qui s'appelle Jacques Le Glouf. Et Jacques Le Glouf, je l'ai retrouvé dans ton bouquin.
Alors, Jacques Le Glouf, c'est un stupéfiant et merveilleux personnage qui a sorti ce que je considère comme le disque le plus extraordinairement subversif qui existe. Ça s'appelle Pour en finir avec le travail. C'était réédité. Il y a un CD. C'est une succession d'excellents détournements de tubes, souvent par lui-même. C'est très, très, très bien orchestré, très bien interprété. D'ailleurs par une certaine Valeria Ouchloum, et je peux dire maintenant scoop qui c'est en réalité.
Ah oui, alors c'est
Jacqueline Danneau, si vous situez.
Ah mais c'est une grande comédienne.
Totalement, oui. Ben oui, mais elle ne pouvait pas sortir ça sous son vrai nom. Alors il y a pas seulement des détournements de Jacques Le Glouf, il y a le cher Raoul Van Eghem qui a écrit une belle chanson, La vie s'écoule.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit. Les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris. Nos révolutions sont trahies.
Et alors, j'ai commis moi-même une bourde et je l'avoue totalement. J'ai cru réellement que la Java des bons enfants attribuée à Raymond Caïman de la bande à Bono était de lui-même, et je viens seulement d'apprendre, depuis 15 jours, grâce au stimulant magazine Chéri Bibi, que c'était écrit en réalité par Debord. Je ne voulais pas que Debord soit au sommaire de mon anthologie, car ce Debord qui me fascine beaucoup, comme beaucoup, et que je mets très 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 haut, m'énerve totalement, me hérisse le poil comme Breton et Karl Marx par son autoritarisme, son goût des exclusions et tout le bazar, eh bien, il est à mon cœur défendant dans mon anthologie.
Dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là. Une explosion fantastique n'en a pas laissé une brique. On crut que c'était Fantomas, mais c'était la lutte des classes. Un poulet zélé vint vite, qui portait une marmite, qui était à renversement, et la retourne imprudemment. Le brigadier, le commissaire, mêlé au poulet vulgaire, partent en fragments épars qu'on ramasse sur un buvard.
Voilà bien ce qu'il fallait pour faire la guerre au palais. Sache que ta meilleure amie prolétaire, c'est la chimie.
Les socialos n'ont rien fait pour abréger les forfaits. L'infamie capitaliste, mais heureusement vient l'anarchiste. Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants. L'avenir a Dieu en place et le vieux monde est à la casse.
Voilà, avec Noël Godin, Anthologie de la subversion carabinée, un bouquin à cueillir. Vous savez, ces bouquins, on cueille des passages, des extraits de temps en temps, comme celui-là, par exemple. « Maintenant que nous savons que les riches sont des larrons, si notre père, notre mère n'en peuvent purger la terre, nous, quand nous aurons grandi, nous en ferons du hachis. » Et c'est signé Louise Michel. Eh oui, Louise Michel. 1866, ronde pour récréation enfantine. On continue avec Noël Godin, avec une autre phrase, celle-là, elle est de Max Stirner, dans L'Unique et la propriété, qui est sorti en 1845. Il disait ceci: les pauvres sont coupables de l'existence des riches.
Oui, alors quand tu dis il y a des gentils, il y en a des burlesques, on va parler évidemment de l'internationale pâtissière que tu connais bien, mais il y a aussi quand même des textes qui appellent explicitement à la violence et aux voies de fait.
Il y a eu très 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 peu de terroristes rocambolesques sympas de nos jours. Il y en a très très peu. Et l'anthologie en regorge, ben c'est les par exemple, les terroristes de la Belle Époque, les Ravachol, les Émilory, les Auguste Vaillant, totalement craquants, ou des agitateurs, la guerre d'Espagne, ou des nihilistes russes poseurs de bombes sous le joug tsariste. Ceci dit, toutes les formes de révolte corsée et entraînante se trouve dans l'anthologie. J'ai évidemment personnellement choisi mon camp, celui de la subversion ludique, ne faisant bobo aux victimes que dans leur amour propre, mais j'ai tenu à ce qu'il y ait toute une série de textes inouïment plus violents, mais très beaux en soi, très lyriques, et tout écrit avec une sincérité totale, lyrique et débordante. C'est une anthologie.
On rigole, mais tout cet esprit-là. Il y a beaucoup d'exemples. Hein, le bouquin est plein d'exemples de conseils aussi donnés. Alors ça va depuis le truc très rigolo comme ça, qui est une façon de ridiculiser le système, jusqu'à des façons de saboter, par exemple, hein, à l'intérieur d'une usine, comment saboter, comment arrêter une chaîne. Il y a des tas de conseils, jusqu'à des conseils pour fabriquer des explosifs, etc.
Oui, il y a plein d'invitations au sabotage très précises qui partent des classiques. Émile Pouget, son traité de sabotage, aujourd'hui dans l'excellent Vrai Art Nouveau qu'on ne trouve plus guère, qui a été frigoussé par un pilier de la revue Actuelle, qui s'est retrouvé à la tête dans Libération d'une des rares rubriques formidables de Libération, Vrai Art Nouveau. Et bien dans ce Vrai Art Nouveau, il y a des conseils assassins pour foutre en l'air des entreprises, par exemple en injectant des morceaux de tôle, des conseils en vérolant des fichiers d'ordinateur, des conseils extrêmement pratiques qui ont dû être suivis à la lettre, car ça paraissait réellement dans Libé à l'époque.
Bon, alors parlons d'un certain Georges Le Gloupier. Il est dans l'anthologie, Georges Le Gloupier. Est-ce que tu peux nous parler de Georges Le Gloupier ?
Ce n'était qu'une plaisanterie canularesque, poussée assez loin, quand je travaillais dans une ridicule revue de cinéma, la seule existant en Belgique, aussi grotesquement catho que Télérama, et pour être logique avec moi-même, je sabotais mon travail dans Douille Critique en y injectant ni vu ni connu un maximum de fausses nouvelles, fausses interviews. J'en ai signé près d'une centaine. Et dans le cadre de ces Niagara de faux, j'avais inventé avec Jean-Pierre Bixou, nous avions inventé près de 80 cinéastes dont nous donnions des nouvelles régulièrement, car ce petit jeu a duré une douzaine d'années. Et parmi ces innombrables faux, il y avait Georges Le Gloupier, qui était censé entarter les baudrus culturels qui lui bavaient le plus sur les rouleaux. Il est censé avoir entarté Robert Bresson. Et on avait, dans un de mes petits caméras, j'avais du film, j'avais inventé que Marguerite Duras, pour venger son ami Robert Bresson, était tombé sur Georges Le Gloupier sur la terrasse du Flore, l'avait entarté, et Georges Le Gloupier lui aurait répondu: Madame, je préfère votre pâtisserie à votre littérature. On en était là quand on apprend que Marguerite Duras va réellement se rendre en Belgique, au chalet des cinémas d'art et d'essai de Louvain-la-Neuve, pour présenter son pénible Détruire, dit-elle. Après quelques bonnes trappistes, on décide que la réalité va rejoindre espièglement la fiction. Nous l'entartons somptueusement à Louvain-la-Neuve. La presse belge en fait sa une et consacre à la plaisanterie une page et demie à l'intérieur dans Le Soir, avec toute sa biographie comme si elle était morte. Oulala, se dit-on, tenait un inouï filon. Les médias étaient donc aussi nigodouilles. On a pu s'arrêter en haussant de plus en plus, en corsant le tir, en passant des baudruches culturelles au roi de l'infofocus, El Kabash, PPDA et quelques autres. Et puis quand le réseau des complicités s'est étendu extraordinairement, on est passé à la phase économico-politique, en s'attaquant au fer de lance de la mondialisation, en passant par Douste Blasi, Sarkozy et le coup des coups, évidemment, Bill Gates.
Dans l'intérieur feutré du cabinet du Premier ministre, le patron de Microsoft et Guy Verhofstadt purent échanger leur point de vue sur l'évolution de la technologie de l'information sans l'ombre d'une tache de crème fraîche. À l'extérieur, la gendarmerie est restée prudente jusqu'au bout. Le danger aurait pu surgir là où on ne l'attendait pas.
Et puis quand même, en tant que Français, je n'oublie jamais que je suis citoyen du pays qui compte le Français le plus entarté. Le Français le plus entarté, c'est quand même un sujet de fierté pour nous autres Français. C'est quand même, on a un Français qui a été entarté 7 fois.
Bravo.
7 fois, qui s'appelle Bernard-Henri Lévy. Bravo. Et 7 fois, voilà, c'est tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui peuvent dire une chose pareille, hein.
Mais il y en a pas beaucoup d'autres. Il a réagi aussi mal les 7 fois pour notre plus grand plaisir.
Et de des proches, le plaisir de des proches aussi.
Ah.
Qui adorait.
Mais, la vraie cata pour BHL, c'est que après son premier entartement, il a tout fait pour que ça ne se répande pas dans les médias. Et, des proches a tenu, interviewé par Michel de Nizot, à mon Zénith à moi, a tenu à passer cette séquence en boucle pour démontrer ce qu'il appelait la vraie nature des cuistres. Totalement. C'était ça.
Lève-le, s'il vous plaît. Lève-le, mon gars. C'est Loupinès, lève-toi. Lève-toi, mon gars. Lève-toi, 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 lève-toi,
La répétition est...
Oui, non, mais ce que je voulais montrer, c'est comment le personnage qui est coiffé par, comme Gonzague Saint-Brie, tout d'un coup se défait. La vraie nature de Bernadette, tu veux dire, le nouveau philosophe de mes deux, tout d'un coup, je te casse la gueule, hein. C'est bien qu'on voit ça, faut ouais. Montrer ça, la vraie nature des cuistres.
Mais ce qui est formidable, c'est que vous avez réussi, les entarteurs d'International Pâtissière, a réussi à confondre quand même, là, pour ce coup-là, BHL, là où les meilleurs critiques de Cornelius Castoriadis, à Vidal Naquet, en passant par Serge Halimi, par une quantité d'auteurs qui ont essayé de faire comprendre à quel point ce personnage était un cuistre absolument nul. Il y a eu 7 livres écrits sur BHL, 7 oui. Livres critiques sur BHL. C'est passé sur BHL comme la goutte d'eau sur la plume du canard. Au contraire, ça l'a même encore gonflé de suffisance et de boursouflure et de vacuité. Et en fait, 7 tartes à la crème ont plus réussi à le déstabiliser qu'une quantité des auteurs les plus brillants et les plus judicieux.
Ben, c'est parce que la tarte à la crème de combat, c'est un peu l'équivalent des fameuses lettres d'insultes que les dadaïstes, les surréalistes, puis les situationnistes envoyaient à quelques puissants personnages qui les énervaient par-dessus tout. Mais c'est une matérialisation de ces lettres d'insultes. C'est la lettre d'insultes qui vous expose à la figure, qui vous coule dans le cou, et dès lors qui fâche très très fort. C'est évidemment leur image qu'on souille. Le maculage, la souillure de leur image est une véritable catastrophe pour eux. Ils le vivent comme un cauchemar total. Ça serait très facile de désamorcer ça en rigolant un bon coup, ce qui ne font pas du tout. Pour la plupart, très 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 peu d'entre eux ont réagi avec cocasserie. Et très heureusement, notre philosophe des beaux quartiers, Sagouin, continue à réagir avec une sauvagerie tout à fait succulente.
Il y en a quand même un qui vous a poursuivi, c'est Jean-Pierre Chevènement qui vous a poursuivi, il a gagné.
Oui, pour la première fois nous avons été traînés en justice, on a perdu le procès, on a perdu en appel, on a perdu en cassation. Chevènement s'était déplacé lui-même et il expliquait sérieusement devant la chambre correctionnelle de Paris que pour des politiciens comme lui... Le vrai capital, c'était l'image, et que en souillant son image, on l'empêchait totalement de faire son travail de politicien. Il a été jusqu'à hurler en pleine audience qu'il aurait préféré recevoir une vraie tarte dans la figure, une baffe, un crachat, voire, a-t-il dit, une bombe corse, plutôt qu'une tarte à la crème. C'est extraordinaire.
Jean-Pierre Chevènement a été entarté cet après-midi alors qu'il se trouvait au Salon du Livre. Le candidat à la présidentielle victime de l'entarteur belge, Noël Godin.
Floup.
Un homme public qui n'a pas de fortune, mais son image. Et ce qu'il doit sauvegarder, c'est son image. Je pense que c'est une atteinte à son image. En plus, en période de débat électoral, donc c'est un acte qui vise à empêcher une expression démocratique sérieuse, solide, comme je m'efforce de le faire. Voilà. J'observe qu'il y a des choses plus graves qui ont été commises aujourd'hui, un attentat contre Émile Zuccarelli. J'observe que lorsque je me suis rendu en Corse, j'étais également en but à des manifestations violentes d'indépendantistes. Je dirais que bon... L'homme politique doit faire front à toutes les circonstances, voilà.
Gloup, gloup, gloup. Entartons, entartons les pompeux cornichons.
Alors voilà, l'association de gros calibres de textes résolument malfaiteurs à travers toutes les formes rocambolesques de subversion, appel au meurtre, grève orgiaque... Tour pendable, pétrolage gloupitant, picassiettisme sauvage, détournement pernicieux, cannibalisme justicier, sabotage polisson, attentat pâtissier, etc. Alors les attentats pâtissiers,
On vient d'en parler, mais enfin, moi, je voudrais bien savoir ce que c'est qu'une grève orgiaque, par exemple.
Une grève orgiaque, c'est une grève qui est à la fois une bacchanale, une vraie, car à tout moment, dans cet ouvrage, nous préconisons avant tout la combinaison entre la révolte tripiale la plus totale et la jouissance sans entrave. Il me semble que cette fameuse révolution ne peut quand même être envisagée que si on vit, que si elle est produite par des pandars vivants d'ores et déjà d'une façon jouissive. Et tous les textes vont dans ce sens-là.
Alors, les chaos spontex de 68 et d'après, moi je me souviens des maos spontex, ça c'est les chaos spontex de 68 et d'après.
Oui, ben c'est un petit guilleret calembour pour impliquer les temps redoutés casseurs de toutes sortes qui procèdent avec inventivité, il y en a, en sachant s'offrir des cibles qui valent le coup. Il y en a eu un peu dans tous les pays. Je vous avoue, pour le moment, que j'ai une sympathie volcanique qui ne sera pas appréciée par tout le monde pour le Black Bloc, absolument déconsidéré depuis les événements de Gênes, parce que pas du tout compris. Je me rappelle qu'après Gênes, j'avais José Bové au téléphone, qui tempêtait lui aussi le Black Bloc. J'adore José Bové, mais il n'y est pas. Quelques livres sont parus à leur sujet. C'est une bande de malandrins, anarcho-enragés, qui, avec une belle force d'impact, et en s'aimant beaucoup entre eux, tout bonnement recourent à des moyens de lutte plus énergiques que d'autres. On verra bien ce qui vont devenir et tout. Mais a priori, c'est des chaos spontex, les gars du Black Bloc.
Alors, le livre a été publié en 88. Là, il y a un supplément, il est enrichi de notes et de bibliographies pour l'édition actuelle. Est-ce que cette histoire continue? Parce que on a balayé un peu quelques exemples dans le passé. Encore une fois, beaucoup au 19e siècle, beaucoup au début des années 70. Est-ce que ça continue aujourd'hui?
Mais elle continue tout à fait. Il y a plein d'intellos de gauche, des abusés, qui disent de toute façon, maintenant, tout est foutu. Eh bien, je m'excuse, mais je leur pisse à l'oreille, car la subversion carabinée continue aujourd'hui.
Comment ?
Elle continue, par exemple, à travers, évidemment, les fauchages de champs de maïs transgéniques. C'est extraordinaire que ça continue dans l'illégalité la plus nécessaire, à travers les géniaux yes men, ouais, les nouveaux as du canular, mais du canular irrécupérable par le pouvoir, c'est sensationnel. Il y a tous les guérilleros pâtissiers et il y a dans le mouvement altermondialiste une frange radicale qui est la vraie base, qui ne s'en laisse pas compter par les leaders, comme il y en aura toujours, soporifiques et modérateurs. Donc il y a toute une nouvelle base de révoltés, d'Éric et Toto, à travers le monde. J'en ai rencontré plein à Montréal, aux États-Unis, un peu partout, qui existent, dont on ne parle pas tant que ça, oui.
Il faudrait pas oublier non plus Groland.
Ben les comparses grolandais, ils vont loin. Ils ont réussi totalement à créer une sorte d'utopie en France. Ils ont de plus en plus de partisans. Et ce qu'ils proposent, c'est quand même l'éclatement de tous les points de repère idéologiques et moraux de la droite. Sous toutes ses formes, il y a tout un petit monde grolandais qui existe, qui est une alternative totalement gratinée à toutes les formes de pouvoir actuelles et ne tombe dans aucun panneau. L'esprit grolandais pourrait devenir foutrement plus contagieux encore et désorbiter tout à fait les pouvoirs en place. Ils sont bien partis, leur audience n'arrête pas de grimper.
Éducation maintenant. Le débat des 35 heures pour les profs à l'école continue de faire des vagues, même chez nous, comme nous le prouve cette interview de notre correspondant local à Mufflin, Francis Kutz.
Bien sûr, Jules-Édouard, la solidarité des profs n'a pas de frontières, comme va nous confirmer Gaël Le Pointu, prof de dessin en lycée. Alors Gaël, les 35 heures pour les profs, ça vous choque?
Disons qu'il faut savoir de quoi on parle.
De bosser 35 heures par semaine.
Ça j'avais compris, mais on parle du travail dans les lycées en oubliant tout ce qui se fait à la maison. Donc,
alors, justement, vous qui êtes prof de dessin, vous préparez quoi à la maison?
C'est difficile à dire comme ça. Il y a aussi les copies à corriger.
De ce côté-là, pour vous, ça va. Les masques de clown, ça doit pas être trop dur à noter.
Je ne fais pas faire de masque de clown, non.
Il n'y a pas de mal. En professeur de dessin, c'est un peu comme prof de musique. Quand on n'a pas assez de talent pour être artiste, c'est une bonne porte de sortie.
Je crois qu'on sort complètement du débat, là. Excusez-moi.
Non, pas vraiment. On parlait des 35 heures. Je ne pense pas que Picasso regardait sa montre quand il peignait des chefs d'œuvre.
Il est vrai qu'il ne touchait pas tout à fait la même paye de prof de ZEP que moi. Donc, excusez-moi, mais justement, parlant de paye, je l'ai la gagner.
Vous le voyez, Jules-Édouard, avec les profs, on commence toujours par parler art, Picasso, et on finit toujours par parler pognon. Là, c'est vraiment dommage. Pour une fois qu'une femme politique proposait quelque chose de bien. Francis Kunz, en direct de Mufflin.
Combien de temps vous mettez pour mettre un attentat pâtissier au point?
Ça va très, très, très vite. On va se faire un petit entartement comme ça, en passant. Donc tout se passe dans l'improvisation la plus bordélique. Mais le grand secret de la réussite des entartements, c'est que les compères entarteurs sont bougrement résolus, plongent sur la cible dès qu'elle apparaît, en faisant gloup, 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 grand secret, et ne se hasarde pas à lancer les projectiles pâtissiers. J'ai jamais lancé une tarte de ma vie. Je suis un médiocre sportif, de peur de rater, même après d'en mettre, je pourrais rater. Nous déposons directement la grenade pâtissière sur le faciès de la cible. C'est le grand secret. Droit dans le pif, boum, boum.
Mais alors, qui est sur la fiche? Il y a une liste d'attente, je suppose.
Oui.
Vous avez créé une liste d'attente de tous ceux qui méritent d'être entartés?
Absolument. Ben, on a
peut
eu
citer quelques noms. On peut citer quelques noms ou pas?
Évidemment.
Encore. Parce que c'est intéressant, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, de citer quelques noms, justement parce que c'est des gens qui, si vous prononcez leur nom, vont s'entourer de gardes et vont prendre leurs précautions, ce qui, encore une fois, peut créer des emplois.
Et leur procurer de très mauvaises nuits. On s'est rendu compte que plus on trompettait le nom des prochaines victimes idylliques, plus on avait des chances d'arriver jusqu'à elles, car on venait à nous avec des plans d'action précis. C'était le cas dans le cas de Toscan Duplantier, de Pépédia, de Sarkozy et de Bill Gates. Des inconnus nous ont contactés avec des plans d'action qui tenaient totalement debout, qu'on a réalisés. Donc, je peux trompeter à l'instant que nous voulons nous farcir les porte-trompettes principaux du gouvernement Sarkozy, il va sans dire, à commencer par Bernard Kouchner, et puis les deux Xavier, on les aura. On aura, coûte que coûte, François Fillon. On ne désespère pas de nous refaire Sarkozy que nous avons entarté il y a 7-8 ans, trois fois en une demi-heure au Palais des Congrès de Bruxelles. Il est autrement protégé aujourd'hui, mais je peux vous avouer, c'est un scoop et ça ne peut pas menacer l'opération, que une grosse huile inattendue s'est proposée à nous pour faciliter l'opération. Évidemment, même d'aucune manière, on ne sortira son nom, même après. Mais ça nous encourage.
Ça, c'est mystérieux. Ça, c'est formidable. C'est une bonne chute. Hein. Oui. Jolie chute. Hein. Il va nous le dire et je vous le dirai, ami modeste et géniaux.
Mais pas aujourd'hui. Merci à tous. Merci à Noël Godin. Je rappelle le titre de son bouquin Anthologie de la subversion carabinée aux éditions L'Âge d'Homme. Le répondeur de la basse officie, c'est le 01 56 40 37 37, vous le saviez. Il est 16h sur Inter. À demain, 15h pour la basse si j'y suis. Les infos, Angélique Bouin. Salut.